Bienvenue aux gens du 107.7 en Estrie, du 104.7 en Outaouais, de partout dans la grande région de Montréal au 98.5 FM. C'est la semaine de la prévention de la noyade au Québec et à chaque année, il y a des drames, des gens qui perdent la vie en se noyant. Certains savaient nager, d'autres non. D'ailleurs, pas plus tard que samedi, il y a un ado de 14 ans qui est décédé dans une piscine dans le quartier Hunsic, quartier Ville. Il y a aussi 3 noyades dans les cours d'eau, 27 depuis le début quand même de la saison. C'est incroyable. Je me dis, on est en 2018 quand même, et à chaque année, on revient pour en parler parce qu'effectivement, faut faire encore de la prévention. On le répétera jamais assez. Et pas plus tard qu'hier soir, écoutez, il y a eu une possible noyade à Pointe-Négamouk dans le Bas-Saint-Laurent. On parle d'un individu de 24 ans qui, lui, ne savait pas nager et qui a disparu. Au moment où on se passe, son corps n'a pas été retrouvé. Et évidemment, on parle de cours de nage, on en apprend quand on est bébé. Est-ce qu'on continue à le faire quand on est un petit peu plus adulte? Puis comment réagir également quand on est en situation peut-être de détresse également dans l'eau? Ça peut nous arriver. Vous savez, là, vous allez soit dans les vagues, vous prenez un bouillon, vous vous étouffez. Vous avez le sentiment là, qu'il y a un petit peu de panique. Là, comment on fait pour se débrouiller? On va en parler avec Renald Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage du Québec. Bonjour.
Bonjour à vous.
Merci d'être là. Écoutez, on parle de gens de décès à chaque année, Renald, on en parle, puis vous venez à l'émission aussi régulièrement, vous faites de la prévention. Est-ce que le message commence à passer? Mais quand je regarde les gens, je suis pas convaincue.
Bien, c'est toujours une noyade de trop à chaque fois qu'on en rencontre une, ça c'est clair. Moi, je vous dis que oui, le message passe, parce que lorsque j'ai commencé à m'impliquer dans cette organisation-là, il y a maintenant plus de 30 ans, on parlait d'une moyenne de 200 noyades par année au Québec. Dans les années 90, 150. Et là, on est rendu près des moyennes de 70. Et lorsque je regarde les dernières années, les trois, là, on est en même inférieur à 70, plus près de 60. Donc, nécessairement, il y a quelque chose qui s'est passé, mais il reste que quand on est en pleine saison, il fait beau, il fait chaud,
là,
il
y a plus de gens. On peut dire qu'on a eu du beau temps.
Hein, il y a plus de gens près de l'eau, sur l'eau, dans l'eau. Alors, effectivement, j'augmente mes probabilités d'en avoir plus qu'un été plate et pluvieux. Mais il reste que chaque noyade, on sait, elles sont évitables. Et c'est pour ça qu'on est ici, pour répéter nos messages de conseil, de sécurité.
Puis c'est important de le faire aussi. Mais est-ce que les gens surestiment leur capacité à nager? Parce que j'ai l'impression qu'il y a peut-être encore une gêne de gens qui vont dire « Bon, mais moi, j'ai pris des cours à l'école ou j'ai pris des cours déjà où je suis capable de faire le petit chien, je me débrouille. » Vous savez, la petite nage qu'on
voilà,
apprend, une des
voilà.
premières. Est-ce qu'on est peut-être gêné de dire que finalement, on nage pas si bien que ça?
Bien, ça, c'est clair. Écoutez, les données qu'on a avec le coroner nous démontrent qu'une fois sur deux, selon les proches de la victime, elle savait nager. Donc, moi, ça, j'amène la conclusion que l'autre fois sur deux, elle ne savait pas nager. Mmh. Et lorsque j'analyse les gens qui disaient qu'ils savaient nager, je m'aperçois qu'ils savaient peut-être plus se baigner que nager.
Ce qui est très différent.
Ce qui est très différent. Vous savez, quand vous avez les deux pieds dans le fond, ça va bien. C'est quand on se retrouve dans la partie profonde ou encore lorsqu'on se retrouve dans des courants qui fait que, justement, j'ai peut-être surestimé ma capacité de savoir nager. Et je prends, là, c'est sûr que c'est toujours trop tôt de réagir à chacune des circonstances, mais je prends les derniers événements qu'on a. Puis nécessairement, les gens ne savaient pas nager s'ils se sont retrouvés dans la partie profonde. À moins qu'ils aient tous eu des malaises, mais je pense que c'est plutôt le fait qu'ils ne savaient pas nager correctement. Et tu sais, savoir nager, ça veut dire quoi? C'est pas le nageur olympique ou paralympique qu'on recherche, là. C'est une personne qui est capable au moins de nager, ce que j'appelle, moi, deux longueurs d'une piscine semi-olympique, là, 25 mètres, donc 50 mètres, de façon continue, pas essoufflée. Là, on vous dit que vous avez peut-être tous les éléments. Parce que plus souvent qu'autrement, les gens sont entre 15 et 25 mètres d'un endroit où ils pourraient s'accrocher ou de revenir au bord. Mmh. Ils ne sont pas toujours en plein milieu du lac, là. Donc, ils peuvent s'accrocher à leur embarcation, ils peuvent revenir sur le bord du quai ou encore sur le bord de la piscine. Alors, nécessairement, ils n'ont peut-être pas les habiletés motrices pour pouvoir se maintenir à la surface et prendre le contrôle de leur respiration. Puis là, de repérer l'endroit où ils pourraient s'accrocher à nouveau.
Parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on les gens sont pris de panique. Puis on peut comprendre, comme je le mentionnais, il suffit qu'une fois on soit pris, qu'on ait le souffle court, qu'on avale de l'eau, et là on essaie d'avoir la tête à la surface, mais c'est comme ça que la panique s'engendre, puis on est moins capable de.
Vous savez, à partir du moment où vous êtes stressé, là, ouais. Vos muscles ont tendance à se raidir, donc vous devenez plus lourd, ok, ou plus lourde dans l'eau, fait que nécessairement, au lieu de favoriser la flottabilité, c'est plutôt le contraire. On semble vouloir vous ajouter des poids supplémentaires, et là, ce qui fait que, justement, vous avez de la difficulté à rester à la surface. C'est pour ça que je dis, lorsque vous retrouvez par-dessus bord, vous devriez avoir votre veste de flottaison, donc on n'aurait pas de problème de flottabilité. Mais lorsque vous nagez, puis que là, vous sentez un certain malaise, vous n'êtes pas sûr, c'est noir, le fond du lac, on ne voit pas tellement clair, là, on prend un peu panique, là. Puis encore hier, là, un de vos collègues journalistes me disait, moi, je suis un triathlète, mais j'aime pas nager en eau libre parce que je vois pas le fond, je suis pas à l'aise là-dedans. Alors, donc, ça fait partie des réalités qu'on a au Québec. Moi, je vous dirais que quand ça arrive, là, prenez le temps de revenir sur le dos, penchez votre tête vers l'arrière, c'est le temps de regarder le beau ciel bleu qu'on a, là,
puis de respirer.
Respirez tranquillement, prenez le contrôle de la respiration, parce que moindrement que vous êtes stressé, vous avez tendance à vouloir augmenter votre rythme respiratoire, vous pourriez même vous amener vers une petite crise d'hyperventilation, et ça peut vous amener une inconscience de 15 à 20 secondes, puis là, naturellement, vous n'avez pas de veste de flottaison parce que vous étiez en train de nager, vous vous retrouvez en dessous de l'eau, et là, c'est la mécanique de la noyade. Quand on est dans les rivières, ben là, c'est les rapides, c'est les courants, c'est les vortex qui font que vous êtes aspiré vers le fond. Et là, c'est pour ça que je dis tout le temps, si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, vous devriez considérer la rivière que pour des sports nautiques et porter votre veste de flottaison en tout temps.
Même s'il fait bien, bien chaud, vous êtes à côté, c'est beau, c'est bucolique, vous faites un pique-nique, tout a l'air calme, parce que c'est souvent ce que les gens vont dire, oui, mais ça avait l'air super calme, juste des petites, un petit ruisseau, une petite vague à peine.
La petite bruine que la chute nous donne, c'est rafraîchissant. Vous savez, juste ça, là, c'est 16 % de toutes nos noyades au Québec. Hey. Cette situation-là. Les gens vont sur le galet, ils là, se font rafraîchir, puis là, ils veulent se lever parce qu'ils veulent aller peut-être voir un petit peu plus près, puis là, ils ont oublié que le galet devient comme un tapis mouillé. Donc, c'est glissant, je tombe dans l'eau, et là, tout de suite, l'entonnoir du ruisseau ou de la rivière se fait, et là, je suis pris dans des courants. C'est pour ça qu'il faut y aller avec la prudence face aux rivières. Ça représente au Québec là, 41 % des lieux où les gens se noient. Sur les 70 là, en moyenne qu'on a. Et plus souvent qu'autrement, c'est parce que c'est l'activité qu'on appelle de baignade. Et après, c'est l'activité de sport nautique parce que les gens ne portaient pas ou ne portaient pas correctement leur veste de flottaison.
Mais la veste de flottaison, les gens, est-ce que c'est ancré maintenant de plus en plus? Quand on va sur l'eau, on porte la veste? Parce qu'on en voit quand même encore beaucoup. Ah, je fais juste une petite balade, là. Je fais juste une petite demi-heure.
Les données nous démontrent que 8 fois sur 10, les gens ne la portaient pas ou n'apportaient pas correctement cette veste de flottaison. Oui, 8 fois sur 10. Il y a une légère progression parce qu'avant, j'avais 9 fois sur 10. Mmh. Mais là, maintenant, on est à 8 fois sur 10. Et savez-vous, Catherine, la principale raison pourquoi les gens ne la portent pas, cette veste de flottaison-là?
Trop grande, trop serrée.
C'est parce qu'ils n'ont pas l'intention de se retrouver par-dessus bord.
Ouais.
Alors moi, quand je me suis envenu, j'étais attaché ce matin pour aller travailler. C'est pas parce que j'avais l'intention d'avoir un accident et c'est pas parce qu'il y avait du trafic. Souvent, j'entends les gens dire « Ah, ben je la sors ma veste quand je vois qu'il y a des vagues.
Ouais. »
Oui, mais la collision peut arriver n'importe quel temps. Et encore là, je regarde les événements malheureux qu'on a depuis quelques jours. Est-ce que les gens qui faisaient des sports nautiques ou l'activité de pêche portaient leur veste de flottaison? En tout cas, il est fort à parier là, que c'était peut-être pas le cas, mais encore là, c'est les enquêtes d'investigation qui vont nous le démontrer. Mais il reste que justement, 8 fois sur 10, principalement les hommes ne portent pas leur veste de flottaison.
C'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que justement, il y a une clientèle plus à sensibiliser manifestement les hommes pour la veste de flottaison ou encore les jeunes adolescents? Est-ce qu'eux, on a encore besoin davantage de faire de prévention?
Ça, c'est clair. Une des recommandations du bureau du coroner, c'est on a commencé à inculquer le programme Nager pour survivre aux élèves de 3e et 4e année. Maintenant, une des recommandations qui a été faite l'année dernière, c'est est-ce qu'on peut commencer à penser aussi au premier secondaire, justement, pour les adolescents. Et là, on appelle ça nager pour survivre plus chez nous parce que là, on met le défi aux enfants de faire cette activité-là, mais aussi leur démontrer que quand ils décident de sauter dans l'eau tout habillé, parce que ça, c'est souvent le genre de comportement qu'ils font, bien, il faudrait qu'ils prennent conscience que le vêtement avec lequel il a aussi son poids et là peut vous amener plus de difficultés à rester à la surface de l'eau.
Et les jeunes, est-ce qu'ils embarquent?
Oui. Oui, oui, ça, c'est vraiment le côté intéressant, là. Vous savez, le ministre de l'Éducation, l'année dernière, a annoncé le déploiement de Nager pour survivre. J'en ai déjà parlé ici. Sylvie Bernier est notre marraine d'honneur de ce programme-là. Au moment où on se parle, durant la dernière année scolaire, on a plus de 10 500 élèves qui ont fait le programme un peu partout à travers le Québec, là. Je vous dirais pas mal, toutes les régions administratives y ont participé. On arrive à un constat. Un enfant sur deux ne réussirait pas à survivre si jamais il tombait dans la partie profonde d'une piscine ou au bout du quai ou par-dessus bord s'il n'avait pas sa veste de flottaison. Alors donc, c'est l'importance de faire prendre conscience que de suivre des cours de natation, c'est vraiment l'une des mesures les plus efficaces. D'ailleurs, elle est reconnue et recommandée par l'Organisation mondiale de la santé que l'apprentissage de natation devrait faire partie du cursus scolaire au Québec et partout.
Oui, puis ça devrait être obligatoire, comme vous le mentionnez. C'est vrai que ce n'est pas tous les endroits, toutes les écoles qui ont des piscines, mais on peut quand même s'organiser avec la piscine du quartier.
Absolument. Ouais. Vous savez, au Québec, on a au-delà de 2000 lieux de baignade possibles. Bon, un bon nombre sont à l'extérieur l'été. Nous, on dit que c'est peut-être une des façons d'avoir des emplois plus tôt que juste à partir du 21 juin. Donc, on pourrait ouvrir nos piscines un petit peu plus tôt lorsqu'elles sont extérieures et profiter les écoles qui sont à proximité pour dire que ce serait le temps de venir faire un tour à la piscine puis on va vous faire nager pour survivre. Ce qui pourrait peut-être nous aider dans le fond au recrutement des sauveteurs qui, on le sait, là, ça a fait la manchette là, dernièrement.
Il en manque pas mal.
Ben, c'est parce que les étudiants, on en forme autant, mais les étudiants choisissent d'autres corps d'emploi durant la saison estivale parce qu'ils sont disponibles à partir du 15 avril s'ils sont à l'université, à partir du 15 mai s'ils sont au cégep. Alors, nécessairement, est-ce que je vais attendre le 21 juin?
Pour travailler.
Pas
faire
sûr.
Des sous. Oui, c'est ça. Ça dépend de la passion aussi, évidemment, des jeunes là, qui veulent peut-être moins offrir, avoir cet emploi-là aussi, peut-être.
Oui, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent durant toute l'année. Okay? Puis l'été, ils veulent aller travailler dans leur domaine d'études. Ça, c'est une autre réalité qu'on a. Sans oublier maintenant la tendance qu'ils veulent aussi prendre des vacances l'été. ça fait partie de nos réalités maintenant.
Les milléniaux. Hein?
Voilà.
Les loisirs, bien souvent.
Voilà.
11h17, restez avec nous. 1-866-790-9850 pour participer à la discussion 514-790-9850. Est-ce que vous savez nager? Est-ce que vous avez pris vos cours, vous, pour nager? Parce qu'on parle de cours de conduite. On parlait de motocycliste, justement, à quel point il fallait être sécuritaire, porter le casque, avoir évidemment l'habillement nécessaire. Mais quand vous êtes sur l'eau ou sur le bord de la piscine, évidemment, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs en ce moment parce qu'il fait très, très chaud. Il va faire chaud encore dans les prochains jours. Comment vous vous comportez? Et est-ce que vous avez déjà eu un événement peut-être malheureux où vous êtes senti pris? Et comment, justement, vous êtes débrouillé? On veut vous entendre. 1-866-790-9850. Est-ce qu'on surestime nos talents de nageur? Moi, je vous dirais tout de suite oui. Honnêtement, je suis carrément poche. Et en vous écoutant, Renal Hawkins, j'ai envie de reprendre des cours. Est-ce que ça se peut de dire,
oui.
Je vais me spécialiser, je vais peut-être prendre plus de précautions, reprendre des cours même adultes?
Absolument. Il y a une panoplie de centres aquatiques qui font juste ça, vous offrir, oui, de l'aquaforme, c'est tous ces programmes de mise en forme-là, mais aussi par rapport à l'apprentissage des nages et de savoir quoi faire si jamais vous tombez par-dessus bord ou en partie profonde. Ça, c'est clair. Là, on en a tout partout au Québec.
Mais tant mieux. Et on va prendre quelques appels d'auditeurs. 1-866-790-9850. On s'en va rejoindre Nathalie. Bonjour.
Oui, bonjour. C'est juste pour un petit commentaire. Moi, je suis allée en Gaspésie avec mon frère. Puis, au lieu de me donner un kayak, ils m'ont donné un canot. Puis, je suis habituée de faire du canot. Puis, je suis très bonne nageuse. J'ai fait des cours de natation quand j'étais jeune. Mm-hmm. Puis, à fin de compte, j'ai chaviré avec le canot. Oh. Puis, c'était comme dans une petite rapide, un petit coin qui tournait, là. J'ai reviré à l'envers. Il y avait à peu près 6 pieds d'eau. C'est là que j'ai réalisé que, ouais, une chance, j'étais pas dans le fleuve à l'autre bout, puis chaviré parce que je m'aurais, comme, genre, peut-être paniqué un petit peu plus. Là, j'ai comme paniqué un peu parce que c'est les rames que je voulais rattraper. J'ai rattrapé les rames, j'ai pris le bateau, je me suis sorti sur le bord, mais la pesanteur du bateau, c'était fort. Puis, j'ai vu des bons Samaritains qui étaient sur le bord, qui passant en kayak, ils m'ont échangé kayak contre mon canot. Donc, j'ai pu me rendre à bon port en traversant le fleuve pour aller l'autre bord au pont où je devais débarquer. Mais je vais vous dire une affaire, la réaction, comme monsieur dit, moi, mes enfants, ils savent nager, mais ils n'ont pas pris des cours de natation. Je leur dis tout le temps la gilet de sauvetage, garde-la sur toi. Garde-la sur toi, même si tu ne veux pas l'attacher, mets-la sur toi et laisse-la là parce que s'il y avait quelque chose, t'as 2 secondes. Moi, je revirais à l'envers 2 secondes et j'ai eu le temps de pogner une rame. L'autre rame, j'ai foulu du nage pour aller la chercher. Le bateau ramené sur le bord. Ça a passé en dedans d'une couple de secondes. Là. La rapide n'était pas vite. Là. J'ai déjà fait la rivière rouge, puis c'était une rapide. Mais juste pour vous dire que ça, c'est une fraction de seconde. Puis la réaction que t'as, c'est que tout de suite, la dernière monte, tu paniques, mais il faut pas te paniquer comme qui dit, regarde des airs, regarde les nuages, dis, OK, je fais quoi maintenant? Il faut que je me rende jusqu'au bord, relax, gars. nage jusqu'au bord. Parce que sinon, le temps de réaction que tu as à penser, de ramasser tes affaires, puis tout le kit, t'es sûr d'aller. Mais quand tu arrives sur le bord de l'eau après ça, puis tu te dis, hey, j'ai chaviré dans 6 pieds d'eau. Ça aurait été quoi si j'aurais chaviré dans une chute, une rivière, la rivière Rouge même, parce que la rivière Rouge est tellement. Mais même la rivière L'Assomption, c'est soit n'importe où, sur un lac, n'importe quoi, comme tu dis. Quand tu vois pas le fond, c'est comme une réaction de vouloir paniquer, mais c'est vraiment, il faut que tu reprennes sur toi. Fait qu'il faudrait pratiquer beaucoup, beaucoup, beaucoup ça. Tout le temps, chavirer. Nous autres, on l'avait fait dans un camp de vacances quand on était jeunes. Mais même à ça, voyez-vous, la réaction m'a été que j'ai eu quand même une petite panique là, pour une couple de minutes.
Oui, puis c'est normal aussi parce que ça arrive en quelques secondes. Et c'est ça, en fait, Renal Hawkins, hein? Les noyades, c'est en quelques secondes que ça arrive. Et comme Nathalie le dit, ben, t'es paniqué. Bon, Nathalie a réussi à s'en sortir, mais c'est pas tout le monde qui aurait eu le même temps de réflexion non plus pour dire ben, comment je vais m'organiser là, pour essayer de pas trop partir avec le courant.
J'avais un coroner avec qui j'ai travaillé pendant quelques enquêtes publiques et il m'avait dit que son père s'amusait quand il était petit à le mettre dans le canot et de le faire chavirer. Puis lui, c'est un pêcheur émérite, là. Il dit, le jour où ça m'est arrivé, je savais quoi faire. Alors donc, quand on parle d'entraînement, quand on parle de sensibilisation, de pratiquer, vous savez, la réglementation fédérale dit vous devriez avoir un sac à cordes à bord de votre embarcation, mais les gens le pratiquent pas, ça, de lancer ce sac à cordes-là pour pouvoir accrocher quelqu'un et de la ramener. Alors, c'est un peu dans ce sens-là que nous, on dit, prenez le temps de connaître justement, hein, on parle dans nos termes, là, avoir les connaissances nécessaires, prenez le temps d'avoir ces connaissances-là et développer des compétences pour vous sauver soi-même et sauver éventuellement les autres.
Merci beaucoup, Nathalie. Et ça m'amène à parler justement de toutes ces embarcations, les canots, les kayaks, même à la limite des pédalos. Et on trouve ça mignon, on s'en va avec la famille faire une petite balade, puis on n'en a pas vraiment fait. On a à peine quelques petites notions. Il y a les pontons aussi qui sont extrêmement populaires. Puis on dit, ah, ça fait juste pout, ça avance pas vite. Donc, je vais être correct, même si j'ai jamais pris de cours. Mais il y a un réel danger, là.
Oui, toujours.
Parce vous savez, qu'on n'a pas là, beaucoup de formation,
si je regarde là, toujours mes données sur les noyades, là, une fois sur 4, là, donc 25 %, c'est un sport nautique. Et la moitié d'entre elles, là, ces noyades-là, c'est les bateaux moteurs. Okay. Par la suite, c'est le canot pratiquement au tiers. Mmh. Et ensuite, le très bas, c'est le côté kayak et les pontons. C'est déjà arrivé. C'est souvent plus des chutes par-dessus bord parce qu'il y a eu une collision entre deux embarcations.
Ou quelqu'un qui a envie de se baigner, qui saute, qui
a envie
pas sa veste,
de baigner. Ouais. Là, ça, c'est clair. Il faut y aller, prendre conscience que les fabricants vous en ont fait dans des modèles appropriés pour chacune des disciplines. Parler du ponton, il y en a des dispositifs flottaison que vous mettez à la taille et que aussitôt que vous vous retrouvez dans l'eau, vous pouvez le gonfler automatiquement. Alors donc, ça fait la différence. Il y en a maintenant des dispositifs où vous le mettez autour du cou, puis aussitôt que vous tombez dans l'eau, ça se gonfle automatiquement. Là, vous allez me dire que c'est 250-300 $, mais je pense que votre vie vaut plus que ça. Et bon, naturellement, les kayakistes, ils ont leur modèle court parce qu'ils sont assis. Les motomarinistes ont leur modèle plus avec la protection des coups. Fait que les fabricants, là, vous en ont fait dans des couleurs, dans des modèles pour chacune des disciplines nautiques. Fait que cherchez-moi l'excuse de ne pas la porter. Puis quand on me dit que ça fait trop chaud, ben prenez le gonflable, là, justement. C'est très léger. Ça ressemble étrangement à ce qu'on voit dans les avions, hein, quand l'agent de bord vous le démontre, là. Mais c'est tout plié sur soi-même, là. Et c'est une petite bonbonne de CO2 qui va faire la différence.
Puis posez vos questions aussi. Quand vous prenez une embarcation, même si c'est un petit cours d'eau, faut le dire, ben, comment ça fonctionne? Est-ce que je peux avoir une petite formation aussi? Parce qu'on peut pas partir avec un bateau comme ça.
Là, souvent, plus souvent qu'autrement, je vous dirais même que les gens pour conduire un bateau motorisé doivent aller chercher leur carte de compétence maintenant, qui s'appelle la carte de conducteur d'embarcation de plaisance, soit par un cours théorique ou un examen théorique là, avec des modules de formation. Mais personne ne leur montre comment naviguer. J'entendais des plaisanciers dire « j'achète un gros bateau, mais personne n'est venu me montrer comment naviguer avec, sur l'eau, sur le fleuve. » Et ça, on le sait, là, il y a des accrochages, il y a des abordages, et ce qui fait que justement, on se retrouve là-dedans. Et la particularité qu'on a avec les sports nautiques, 4 fois sur 10, les gens avaient consommé de l'alcool. Faut pas oublier que l'été, on est souvent en déshydratation causée par le soleil, le vent. Alors, lorsque je prends ne serait-ce qu'un verre d'alcool, c'est comme l'équivalent d'en prendre 3 sur la terre ferme parce que vu que je suis déshydraté, l'alcool s'absorbe plus rapidement. Je viens pas changer mon taux d'alcoolémie, là. Mais l'alcool s'absorbe plus rapidement et le clapotis des vagues fait en sorte que j'ai pas le même sens de l'équilibre. Puis là, oups, je me retrouve par-dessus bord et naturellement, ma flotte était restée à bord de l'embarcation comme j'entends souvent. Fait que vous voyez là que Éduc'alcool dit la modération puis le meilleur goût. Moi, je dis attendez d'être revenu à bon port avant de consommer.
Oui, c'est ça. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Si on parle des piscines, parce que les piscines aussi, évidemment, il y a des drames horribles qui se passent. À chaque été, on en entend des enfants. Bon, je vous parlais de l'adolescent également qui est décédé. On ne sait pas encore qu'est-ce qui s'est réellement passé. Mais il reste que les piscines peuvent être un danger. La piscine dans notre cour où on a bien du fun présentement, puis on trouve ça agréable, on fait des fêtes, il fait beau, il fait chaud, on aime se baigner avec le petit verre aussi. Il faut voir la prévention, il faut aussi être présent justement à chaque minute, chaque seconde quand on est là.
Vous savez, quand on fait des fêtes ou on fait des parties, entre guillemets, on a un conducteur désigné pour la route, mais on devrait avoir notre sauveteur désigné pour la surveillance des enfants. Alors, vraiment, vous attribuez cette responsabilité-là, peu importe le lieu de baignade, que ce soit dans ma piscine résidentielle ou la piscine publique ou le parc aquatique ou la plage, je désigne un adulte responsable. Et toi, ton mandat, c'est de surveiller, puis je vais revenir te remplacer à tour de rôle, faire des rotations comme les sauveteurs font dans les lieux de baignade publics.
Pour rester alerte.
Rester alerte, vigilant. Et pour aucune raison, on devrait justement faire autre chose que de surveiller. 91% des enfants qui se sont noyés, c'est soit parce qu'il n'y avait pas de supervision directe ou parce qu'il y avait une distraction dans la supervision. Naturellement, lorsqu'on ferme la piscine résidentielle pour autre chose, d'autres activités, mais on s'assure qu'elle est vraiment non accessible. C'est le principe même du règlement qu'on a développé avec le ministère des Affaires municipales en 2010. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a de moins en moins de noyades parce que la majorité du temps, les enfants allaient s'amuser dans la piscine à l'insu même de maman ou papa parce qu'ils avaient l'accessibilité à partir de la résidence. Maintenant, on est venu ceinturer le tout pour empêcher les enfants d'avoir cette accessibilité-là et de faire en sorte qu'on va éduquer notre enfant. Tu vas aller te baigner? Il faut que ce soit avec maman, papa. Comme on le fait là, par rapport, tu ne peux pas traverser la rue sans la présence de maman, papa par la main, ou tu ne peux pas aller jouer dans la rue sans la supervision d'un adulte. C'est la même chose lorsqu'on est près de l'eau. Il faut apprendre à nos enfants. Quand tu veux te baigner, il faut y aller dans l'eau avec maman, papa. Puis naturellement, on prend notre responsabilité en tant que parent, on descend dans l'eau. Puis on s'amuse pas avec notre téléphone cellulaire.
Ouais, sur le bar, ça j'ai déjà vu ça aussi. Quelqu'un
on
qui est avec
son,
ouais, hein, qui est sur les médias sociaux puis l'enfant se baigne. Puis maman, regarde-moi, donne-moi une note. Hein, je t'ai pas vu. Mais c'est ça. Je pense que c'est vraiment un comportement à ne pas avoir. Et si on parle de sécurité autour de la piscine aussi. Bon, évidemment, on a parlé de les clôtures toujours, évidemment, avec le cadenas aussi, de toujours avoir l'œil sur les enfants ou sur les personnes qui se baignent. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses également qu'on peut avoir à la piscine?
Ben c'est sûr qu'on va avoir des extensions de portée. Okay? Donc, la perche là, qu'on utilise pour nettoyer le fond de la piscine, bon, on s'organise pour l'avoir prêt. Avoir un dispositif de flottaison, soit une bouée ou une veste de sauvetage, justement, qui sera accessible. Si jamais une personne est en difficulté dans la partie profonde, je parle plus de la piscine creusée, naturellement, là, ben, vous pourriez faire l'extension de portée et lui tendre. Moi, j'invite d'ailleurs vos auditeurs, auditrices là, à venir sur le site baignadeparfaite.com. Il y a un petit test d'auto-évaluation qui vous permet de voir est-ce que ma piscine est conforme à la réglementation. Puis en même temps, vous avez tous nos messages aussi. Sécurité qui va faire en sorte que vous allez passer un bel été lorsque vous ouvrez votre piscine résidentielle.
Et c'est ce qu'on souhaite aussi avec les beaux jours, d'en profiter de façon sécuritaire, avec du plaisir. Merci beaucoup, Renal Hawkins, directeur général de la Société de sauvetage au Québec. Merci d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie de l'invitation.
11h31, au retour, on parle de ces bébés. Les bébés, là, quand on commence à avoir des enfants, vous le savez, hein, ça coûte extrêmement cher. Et il y a Protégez-vous qui a décidé de faire un dossier là-dessus pour nous inciter et aussi nous donner de beaux trucs pour ne pas trop dépenser, vous allez voir.